Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je crois que tout laisse espérer que très bientôt nous connaîtrons le calme. Un calme qui permette vraiment de travailler, qui permette de créer ce facteur confiance qui est indispensable pour construire ce pays.
Après 6 ans d'emprisonnement qui l'ont éloigné de la scène politique, celui dont les autorités ont détourné l'avion et enfermé dans plusieurs prisons françaises a été libéré à la faveur des accords d'Évian. Il retrouve très rapidement sa place au sein des leaders nationalistes de l'extérieur pour continuer le combat pour l'indépendance de l'Algérie. Une autonomie internationale désormais inéluctable, même s'il persiste ça et là des poches de résistance. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Ahmed Ben Bella.
Ici Évian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Évian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis. La paix est...
En rentrant de l'Aïe, aujourd'hui, le cessez-le-feu est proclamé.
Ce 18 mars 1962 marque officiellement la fin effective de la guerre d'Algérie. Mais en réalité, le cessez-le-feu n'est pas respecté par tous. La situation s'envenime à nouveau. L'armée française, près de 400 000 hommes en Algérie, décide de quitter progressivement et plus vite que prévu le territoire algérien. Avec eux, 60 000 soldats harkis et leurs familles décident de choisir l'exil par crainte d'un destin tragique. Dans le même temps, l'OAS, l'organisation secrète, opposée à l'idée d'une Algérie détachée de la France, met en place une politique de terre brûlée, avec de nombreux attentats qui touchent sans discernement civils et militaires. Et les harkis, de leur côté, se sentent abandonnés. Le FLN, le Front de Libération Nationale, profite des accords pour reconstituer ses forces armées. À partir du 17 avril 1962, il lance une campagne d'enlèvement contre des Français supposés proches de l'OAS. Les massacres contre d'anciens harkis suivent presque immédiatement les accords. Loin de régler le problème algérien, les accords et l'inaction voulue des forces françaises en Algérie ont pour conséquence une période de violence meurtrière qui perdure de longs mois pour les harkis. Pour les leaders historiques de la révolution algérienne, les accords d'Évian négociés sans eux marquent surtout la fin de la prison. Ahmed Ben Bella et ses camarades retrouvent la liberté. Aussitôt libéré, Ben Bella va se rendre en Suisse avant de regagner Rabat où a lieu la réunion du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Seulement, entre eux aussi, les responsables nationalistes, ce n'est plus la grande amitié. La cohésion affichée au moment de leur arrestation en 1956 a disparu. La détention semble avoir fait des dégâts. Aussi Naït Ahmed, un des leaders historiques du FLN.
Ils avaient envoyé Bouteflika pour recruter un historique. Ils voulaient d'abord convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit « Qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections ? Vous divisez le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. » Il a été très dur à l'égard d'état-major, donc « out ». Bouteflika a éliminé Boudiaf. Moi, il n'est pas question en ce qui me concerne. Il connaît un peu le point de vue idéologique, non pas mon caractère, mais mon point de vue idéologique. Pas idéologique, politique.
Mohamed Harbi, conseiller politique du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne.
Rabah Bitat, Ben Bella et Ahmed Boudiaf ne formaient pas, disons, un groupe homogène. Ils ont eu, sans aucun doute, on le sait maintenant, des problèmes de cohabitation en prison qui ont joué autant que les divergences politiques. Et donc, on avait Boudiaf qui était allié à Krim, Aït Ahmed qui jouait la neutralité, mais qui n'avait pas de force propre. Il y avait les gens du gouvernement qui étaient branchés sur les wilayas, c'est-à-dire Krim, Bentobel et Boussouf, mais... Il y avait également les politiques avec Ben Khadda Yazid et Dahleb qui, eux, n'avaient pas de force propre.
En réalité, les signataires des accords d'Évian sont loin de faire l'unanimité au sein du mouvement nationaliste. Hossein Aïd Ahmed, un des chefs historiques du FLN en prison avec Ben Bella.
C'est pendant les négociations GPRA, gouvernement français, que la crise latente qui existait entre ce qu'on appelle les hauts commandements de l'armée aux frontières marocaines et aux frontières tunisiennes, c'est à ce moment-là que les militaires ont pris des initiatives politiques très très fortes. Ils ont manifesté leur désaccord avant que la signature des accords d'Évian, et c'était pour nous un devoir de rappeler à l'ordre l'état-major. Donc nous avons écrit aux dirigeants militaires de dire c'est une erreur politique grave que d'avoir ouvert une crise au moment de la négociation, et en même temps nous avons écrit une lettre de soutien à Ben Khaddam.
Les leaders de la révolution algérienne se sont installés à Tunis, siège de l'exécutif du FLN. Dans cette ville, les personnalités des uns et des autres s'affirment de plus en plus. Ben Bella fait très vite figure de candidat à la présidence. Il reçoit dans sa villa diplomates et émissaires de toutes nationalités. C'est d'ici qu'ils vont curieusement prendre le chemin de Tripoli pour deux sessions du Conseil national de la Révolution. Hossein Aïd Ahmed.
Personnellement, j'étais contre la réunion du Conseil national de la Révolution à Tripoli. Parce que pour moi, ce qui était important, c'est d'envoyer tous les cadres disponibles à l'intérieur du pays. Il y avait la lutte contre l'OAS. Et une fois en Algérie, créer les conditions pour une préparation démocratique du congrès du FLN. C'était ça ma vision. Je m'étais opposé, mais minorité.
Mais 1962, le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, convoque l'ensemble des cadres nationalistes. Ceux qui sont encore dans le maquis et ceux qui sont en France et en Tunisie. Il s'agit d'adopter un programme de gouvernement et de ratifier les accords d'Évian, puisque ces mouvements du maquis ne connaissent même pas le contenu de ces accords. Le 6 juin 1962, dans une ambiance surchauffée, où l'on n'est plus vraiment d'accord sur les orientations qui ont pourtant été adoptées à l'unanimité, c'est le clash. La rupture entre les leaders qui se sont réunis à Tripoli en Libye pour une session du CNRA, le Conseil national de la Révolution algérienne. Les mots sont assez durs entre eux et ils se terminent en queue de poisson. La révolution algérienne est désormais sans représentation politique acceptée par tous. Commandant Azzedine.
C'était la lutte pour le pouvoir qui avait commencé déjà lorsque les cinq étaient en prison, dont le président actuel Bouteflika servait d'agent de liaison. Il a été vendre un coup d'État, Boudiaf l'a refusé. Il a trouvé un preneur qui s'appelle Ben Bella. Bon. Il a acheté le coup d'État. On connaît la suite.
Hossein Aïd Ahmed, un des chefs historiques du Front des Libérations Nationales.
Vous savez, personnellement, j'ai fait des efforts pour que nous rentrions unis. J'ai profité de ma présence au Caire lors de la réunion du groupe de Casablanca, groupe africain de Casablanca, pour aller voir Nasser, et avec l'autorisation du chef de gouvernement, et lui dire ceci. Si jamais cette crise atteint l'Algérie, vous ne serez pas gagnant. Ben Bella ne sera gagnant. Personne ne sera gagnant. Si la digue se rompt, c'est l'atomisation. Donc s'il vous plaît, faites quelque chose. Moi, je suis prêt à soutenir un remaniement possible du GPRA pour mettre à sa tête Ben Bella. Mais de grâce, il faut intervenir parce que ce qui risque de se produire en Algérie, c'est du nihilisme. Si jamais on dérive vers la guerre civile.
À Tripoli, l'union affichée jusque-là a volé en éclats. Ahmed Ben Bella prend congé de ses camarades et rejoint le Caire en Égypte. Il en a fini avec le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Il va se rapprocher dans ce conflit des militaires de Wari Boumediene et de son armée des frontières. Le clan d'Oujda, comme on l'appelle, qui était totalement opposé aux négociations et aux accords d'Évian. Pour Boumediene, il fallait d'abord régler les problèmes de l'Algérie. Il avait aussi peur d'être exclu du processus. Le 30 juin 1962, veille du référendum d'autodétermination de l'Algérie, Ben Bella crée à Tlemcen le bureau politique du FLN et rassemble autour de lui les militaires prépondérants.
Écoutez, les difficultés surgissent entre certains membres du GPRA et d'autres membres du GPRA. On a tort de parler des difficultés qui auraient surgi entre des membres du GPRA et moi-même. il existe des difficultés entre certains membres du GPRA et d'autres membres du GPRA, notamment Khider, Bitat, Mohamed Saïd et moi-même. Eh bien, ces difficultés ont surgi après la tenue du CNRA, du dernier CNRA. Le CNRA avait à l'ordre du jour deux points précis, l'adoption d'un programme politique et la désignation d'un bureau politique. Nous avons adopté le programme politique à l'unanimité, mais malheureusement, nous n'avons pas pu désigner ce bureau politique par la faute de certains membres du GPRA et notamment du président du GPRA, par leur faute, dis-je, qui a consisté à quitter le CNRA sans aucun motif et en somme à faire en sorte par là même à ce que les travaux ne puissent pas se poursuivre.
Juillet 1962. En application des accords d'Évian, c'est le scrutin d'autodétermination. Les Algériens se prononcent en faveur de l'indépendance de leur pays.
Vive l'indépendance !
Vive la liberté !
Derrière nous, c'est la Casbah, 80 000 personnes à peu près. Oui. Comment, que s'est-il passé cette nuit? Est-ce qu'il y a eu des fêtes à la Casbah?
Ben oui, il y a eu des fêtes un peu partout, dans tous les quartiers. Le lever du drapeau qui s'est passé à minuit, des coups de pétard, de mitraillette pour fêter cette plus grande fête. C'est la plus grande fête de l'Algérie, c'est l'indépendance.
À quelques centaines de mètres d'ici, c'est la Casbah. C'est une grande fête. Il n'y a rien eu, pas d'attentat, pas d'incident ici à Paris.
Non, aucun incident. Au contraire, j'ai vu les types de la LN hier, aujourd'hui, ils ont tout été corrects. Mieux que je le pensais, c'était impeccable.
Vous êtes indépendant depuis hier.
Oui.
Quel effet est-ce que ça vous fait?
Ça me fait pleurer de joie. Je suis vraiment content. C'est une impression dont je n'ai jamais eue. Auparavant.
Le 3 juillet 1962, la France reconnaît officiellement l'indépendance de l'Algérie. Partout dans le pays, c'est la liesse. Pour l'occasion, les nationalistes ont eu leurs différends. Hossine Aït Ahmed.
C'était un instant de bonheur et surtout de voir la joie, de voir le déferlement d'enthousiasme, les danses. C'était une atmosphère presque magico-métaphysique. C'était extraordinaire. C'est surréaliste de voir des femmes enlever leur voile, se mettre en jupon, aller embrasser les hommes.
D'Alger, le peuple de l'intérieur qui sont arrivés, ouais, le peuple de l'intérieur est arrivé ici, les gars de un bâton de la Wila 2, un bâton de la Wila 3, le peuple pendant 3 jours, la fête, le 4e jour, Ben Khamda m'a dit qu'il faudrait que le peuple se mette au travail. Il a pris la parole au niveau de la Wila, il a dit demain, il faut retrousser les manches. Il faut aller travailler. Le lendemain, tout le monde s'est mis au travail.
Dimanche, l'Algérie a voté. Européens et musulmans ont participé au référendum d'autodétermination qui s'est déroulé dans un climat de détente que l'on osait espérer il y a quelques semaines encore. L'indépendance de l'Algérie a pris effet officiellement lundi à 10h30. Au cours d'un conseil des ministres extraordinaire, le gouvernement français a reconnu solennellement cette indépendance. Monsieur Jeannet a été nommé premier ambassadeur haut représentant en Algérie. Il a gagné son poste vendredi matin. D'autre part, ce conseil des ministres extraordinaire a mis fin par une ordonnance au mandat des 102 parlementaires d'Algérie, 68 députés et 34 sénateurs. Mardi, Monsieur Benkeda et les ministres du GPRA sans Monsieur Ben Bella ont reçu un accueil triomphal à Alger où les fêtes de l'indépendance se sont poursuivies pendant 3 jours dans le calme et l'allégresse. Malheureusement, à Oran, ces fêtes ont été marquées par des incidents sanglants qui ont fait de nombreux morts. Mais à peine indépendante, l'Algérie connaît déjà sa première crise avec le désaccord survenu entre M. Ben Kedda, soutenu par le GPRA, et M. Ben Bella, qui serait soutenu par deux des six vilayas de l'ALN. Autre prolongement de l'affaire algérienne, vendredi matin à l'aube, Roger de Gueldre a été fusillé au fort d'Ivry. Il avait été condamné à mort le 29 juin pour avoir ordonné l'assassinat du commissaire Gavoury et mis sur pied les commandos Delta.
Le 5 juillet, les 5 bataillons de l'ALN, l'armée de libération nationale, pénètrent dans la capitale, Alger. Le même jour, le président du gouvernement provisoire, Ben Youssef Ben Hadda, entre à son tour dans Alger. Mais cette allégresse de l'indépendance ne va pas durer bien longtemps. Parce que la révolution va changer de sens. Elle va s'emballer. Les luttes pour le pouvoir s'exacerbent au sein des mouvements nationalistes. L'armée des frontières de Wari Boumediene qui roule pour Ben Bella avance. Elle est à Constantine le 24 juillet 1962. L'affrontement est inévitable. Désormais, les nationalistes se battent entre eux. C'est maintenant une guerre de personnes. Une bataille pour le pouvoir. Yassef Saadi, le chef de la zone autonome d'Alger, s'est rangé du côté de Ben Bella dans cet affrontement pour le contrôle de la capitale.
Je n'ordonnerai pas à mes hommes de tirer sur d'autres frères, d'autres djounoud. Nous sommes dans une position défensive. Voyez-vous, dans toute cette casbah, nous avons 1830 hommes armés en uniforme, sans compter les 2000 civils armés également, qui occupent toutes les terrasses. La casbah est entre nos mains. Donc, on peut déclencher un mouvement et occuper Alger.
Nous faisons un appel à tous les dirigeants qui sont en ce moment pour qu'ils soient unis.
Nous ne voulons pas crier vive un tel ou vive un tel. C'est le peuple qui commande tout, c'est le peuple qui a combattu pour la révolution, c'est lui qui l'a construite de ses mains.
Ahmed Ben Bella va rapidement prendre le dessus dans cet affrontement. Il pénètre dans Alger le 3 août 1962. Malgré l'opposition de la Wilaya 4 du 20 août au 4 septembre, il est à présent le maître du jeu, Ahmed Ben Bella.
C'est le peuple qui est vainqueur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le peuple qui a imposé la présence du bureau politique ici. Cela peut paraître paradoxal. Nous n'avons jamais eu une tête, une direction politique. La révolution algérienne a souffert constamment d'une méningite cérébrale, si l'on pourrait dire. C'est la première fois qu'il y a une autorité politique. Je pense que ce n'est pas l'autorité politique définitive, mais son état.
Ali Haroun, dirigeant du FLN de France.
À partir du moment où, c'est la force qui a primé, et il est là, il y a un bureau politique, on va le voir. Et on lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? La première des choses, il dit, remettez l'argent qui reste à un tel. On dit, très bien, cet argent n'est pas le nôtre. Hein. C'est les restes, c'était les cotisations, je crois, des 2 ou 3 derniers mois de la fédération. Monsieur Ben Bella désigne quelqu'un et qui part avec Omar Boudaoud en Suisse et il lui fait la passation des comptes, etc. Il obtient le quitus et puis nous ne sommes plus rien. C'est fini.
Maintenant qu'il a pris le pouvoir par la force, qu'il a écarté les autres leaders de la révolution, il faut passer à l'étape suivante, la légitimation de son pouvoir. Mais la bataille est loin d'être gagnée dans un pays aussi divisé, avec une telle charge historique. Et toute une administration à construire, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la dernière partie de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Ahmed Ben Bella. Rendez-vous donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
Je ne pouvais pas concevoir une Algérie avec 1 500 000 pieds noirs. Ce n'est pas un acte de rejet, je vous assure. Les pieds noirs, moi je pense qu'ils sont des victimes. J'ai des amis parmi les pieds noirs. Mais lucidement, je ne voyais pas le projet de l'Algérie que j'avais, que je portais en moi. Une Algérie révolutionnaire, une Algérie qui allait vers des options socialistes. Une Algérie qui allait combattre l'impérialisme. Elle ne pouvait pas avoir appris façon de le faire avec un système de Rhodésie.
Les archives d'Afrique. Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Ces accords de Vienne, pour nous ne sont pas le Coran, excusez l'expression. À travers les accords de Vienne, c'est le problème de la coopération qui nous intéresse. Nous pensons que nous sommes les meilleurs artisans de la coopération avec la France, car nous liquidons tous les aspects négatifs des rapports entre la France et nous. La France, ce n'est pas M. Bourg. La France, ce n'est pas les intérêts de l'hôtel Aliti. Nous, au contraire, nous apportons un contenu des plus valables.
Oubliez les 7 ans passés dans les prisons françaises. Derrière lui, la rupture et les affrontements avec ses camarades nationalistes. Du subtil Haïd Ahmed, de l'honnête Ben Kedda, du jovial Dallah et de l'ardent et intraitable Boudiaf, Ahmed Ben Bella a finalement pris le dessus. Il tient désormais Alger. Il peut maintenant envisager la légitimation de son pouvoir. Le pays dont il hérite est en pleine déliquescence. Tout est à construire. Hervé Bouche, ancien conseiller français de Ben Bella.
Bon, je crois qu'il y a un mot pour la qualifier, c'est une Algérie exsangue. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de réfugiés, des centaines de milliers d'orphelins, une administration qui n'existe plus. Dans le domaine agricole, la même chose. Des colons qui étaient partis et qui avaient saccagé le matériel avant de partir, des industries qui ne tournaient plus. Il fallait donc mettre le pays sur pied, essayer de l'unifier et essayer de faire la révolution, puisque c'était le but n'était pas seulement l'indépendance, mais était aussi de faire la révolution.
Algérie, c'est aujourd'hui que s'ouvre officiellement la campagne électorale en vue du scrutin du 2 septembre. Le délai pour le dépôt des candidatures auprès des commissions électorales des préfectures sera clos au plus tard 14 jours avant le 2 septembre, autrement dit samedi 18 août à minuit. Or, à 4 jours de cette date limite, aucune liste n'est encore connue, aucun nom n'a encore été rendu public.
On sait que c'est au scrutin de liste départementale majoritaire à un tour que l'élection à l'Assemblée constituante algérienne doit se faire. De ce fait, les candidatures ne peuvent s'exprimer que par listes entières. Et ces listes doivent comporter les candidats européens auxquels chaque département a droit, 16 députés européens, pour toute l'Algérie, sur les 196 que comprendra la future Assemblée. On conçoit que l'établissement de ces listes, dans les circonstances politiques actuelles, présente quelques difficultés. En effet, les pourparlers entre le bureau politique et les représentants des vilayas se poursuivent. On doit aujourd'hui examiner les candidatures présentées par des militaires et celles souhaitées par des politiques.
Et le dosage ne paraît pas toujours facile à établir.
Fin septembre 1962, une assemblée élue, présidée par le vieux nationaliste Ferhat Abbas, s'est réunie pour établir la constitution du nouvel État.
J'ai le privilège et l'honneur de présider en ce jour historique à l'ouverture des travaux de la première Assemblée nationale algérienne souveraine.
En réalité, l'adoption de cette constitution au sein de cette Assemblée a été préparée et orchestrée par Ben Bella. Elle n'est qu'une chambre d'enregistrement de ce qu'il a concocté quelques jours plus tôt. Aussi Haïd Ahmed, l'un des leaders historiques du FLN.
La constitution a été faite dans un cinéma par des gens choisis sur le volet, comme on dit.
Trié sur le volet.
Trié sur le volet. Et puis, évidemment, chaque fois, ils essaient de respecter les formes. Ils l'ont imposé à l'Assemblée constituante. C'est là où le sens de l'honneur, chez certains hommes comme Ferhat Abbas et d'autres, ont démissionné.
Le lendemain des élections faites par le Front de Libération Nationale, Ahmed Ben Bella est tout simplement investi dans ses fonctions de chef de gouvernement. Il présente alors le premier gouvernement de la République de l'Algérie indépendante.
En présence, ici, dans ce lieu, au milieu des coordinateurs du parti venu à cet effet, a une signification claire. Elle n'est que la concrétisation dans les faits de notre option fondamentale, à savoir que c'est le Front de Libération Nationale qui élabore la pensée de la nation. Et que c'est ce même front qui en contrôle la réalisation, la présentation du gouvernement, donc, devait tout d'abord être faite dans ce lieu et d'abord aux responsables du Front de Libération Nationale. Cela signifie que notre gouvernement n'est que l'instrument choisi par le parti pour traduire dans des faits une pensée politique qui a élaboré ce parti. Le nouveau gouvernement est constitué de militants, d'authentiques militants, d'authentiques révolutionnaires. Nous avons rompu avec les pratiques d'avant. Nous sommes nullement tenus à la valeur formelle des parchemins, mais à la valeur intrinsèque. Des militants, des authentiques valeurs sécrétées par cette année et demie de lutte, et nous avons voulu leur donner des responsabilités au sein de ce gouvernement. Nous avons d'autre part retenu une nouvelle formule de gouvernement, une concentration des responsabilités qui aura pour effet principal d'éliminer les contradictions et, pourquoi ne pas le dire franchement, d'éliminer ce mal qui a atteint même les régimes les plus valables, la paperasserie. Président du Conseil, Ahmed Bembella. Vice-président du Conseil, ministre de la Défense nationale, Aouari Boumdiane. Vice-président du Conseil, Mohamed Issaï. Vice-président du Conseil d'État Rabat. Ministre d'État.
À 46 ans, Bembella est le nouvel homme fort de l'Algérie. Il se sent investi d'une mission à la tête de l'État. Il veut construire ce qu'il appelle un socialisme typiquement algérien, en lien étroit à la fois avec le modèle français et cubain. Bembella règne en réalité sur son pays. Son modèle est celui de l'Égypte de Nasser, qu'il admire, son grand frère, comme il l'appelle.
Amené par l'ancien yacht du roi Farouk, qui porte aujourd'hui le nom de Liberté, le président Gamal Abdel Nasser a rendu sa première visite à Alger. Un an après la fin de la guerre d'Algérie, la population de la capitale a réservé avec M. Bembella un accueil enthousiaste à celui que l'on appelait le grand frère. Accueil si enthousiaste que les deux hommes durent abandonner leur automobile pour une voiture de pompiers afin d'achever la traversée de la ville. Le drapeau de la République arabe unie comptera-t-il un jour 5 étoiles, la cinquième représentant l'Algérie ? Conférence interafricaine d'Addis Abeba, problème des regroupements en cours au Proche-Orient, tels allaient être les principaux thèmes des entretiens politiques des deux hommes d'État.
Ahmed Bembella concentre entre ses mains tous les pouvoirs. Il va également rapidement écarter ses camarades, les leaders nationalistes avec qui il s'est battu pour l'indépendance du pays. Il épure le parti, l'armée et l'administration et est désormais, à partir d'avril 1963, le secrétaire général du bureau politique du FLN. Bref, le patron du parti, avec un dauphin désigné, le colonel Wari Boumdiane. Sur le plan international, il est très très actif.
Voyage outre-Atlantique pour Bembella à l'occasion de l'admission de son pays aux Nations Unies. Après avoir rencontré le président Kennedy à la Maison Blanche, le président du Conseil algérien s'est rendu à Cuba avant de regagner Alger samedi.
Bembella voyage beaucoup, notamment dans les pays dits révolutionnaires de l'époque. S'il est proche de l'Union soviétique, Khrouchtchev lui offrira d'ailleurs un Ilyushin pour ses déplacements avec tout un équipage soviétique installé à Alger. Il est aussi très présent dans les grandes batailles indépendantistes qui agitent le monde en cette période.
Nous avons des volontaires que nous entraînons depuis des mois, qui ont terminé leur entraînement, qui sont officiers, qui vont rejoindre l'armée à l'intérieur de l'Angola, comme d'ailleurs, et cela, ce n'est pas un grand secret, les 9 dixièmes des cadres de l'armée de l'Angola ont été entraînés en Algérie, quand ils ne l'ont pas été alors que nous nous trouvions en Tunisie ou au Maroc. les 9 dixièmes des officiers actuellement en Angola ont été entraînés dans les camps de l'AMP.
Il y a combien de camps en Algérie?
Il y a plusieurs camps. Il y a des camps sur la frontière, je n'ai pas de secret, sur la frontière algéro-marocaine. C'est là où se trouvent les camps. La majorité des camps où s'entraînent, disons, les volontaires pour l'Angola, le Mozambique, l'Afrique du Sud.
Sur le plan continental, Ahmed Ben Bella est très présent. Il est de tous les grands rendez-vous et milite pour l'unité africaine, mais aussi pour l'unité arabe.
Je pense que la solidarité arabe, pour être valable, pour en somme être viable, ne peut s'inscrire ailleurs que sur un terrain ferme, c'est l'unité africaine, c'est le cadre africain. Et l'unité arabe, en somme, n'est que un pas dans la voie, en somme, d'une option beaucoup plus valable, dans un cadre beaucoup plus valable, l'unité africaine. Je pense donc que l'unité arabe ne peut, à condition qu'elle s'inscrive dans le cadre de la charte d'Addis Abeba et qu'elle se fasse d'une façon plus audacieuse, sinon il n'y aurait aucune raison de faire cette unité arabe.
L'unité arabe se branche, selon vous, directement
sur l'unité africaine. Absolument. Ce n'est qu'un pas en vue d'une option qui est l'option essentielle, celle qui est le facteur intégrant, si vous voulez. Le facteur intégrant, c'est l'unité africaine.
La révolution pour Ben Bella, c'est la proximité, le contact direct avec ses compatriotes, l'enquête sur le terrain. En Algérie, Ahmed Ben Bella séduit par son omniprésence dans les villes, dans les quartiers, auprès du peuple, dans les hôpitaux où il rend visite à des malades. Il est acclamé par la foule lorsqu'il va à la rencontre des cireurs sur le quai pour les arracher à leur misère et les envoyer à l'école. Il est bon musulman et estime que c'est un réel atout pour comprendre les problèmes algériens et pour impulser la recherche de l'authenticité des siens. Au mois de mars 1963, il va signer des décrets pour donner les terres aux paysans dans une politique dite d'autogestion.
À Alger, pendant ce temps, l'Assemblée a connu son premier incident, l'Assemblée nationale, son premier incident sérieux à propos de la procédure adoptée pour doter l'Algérie d'une constitution présidentielle.
Les députés algériens n'ont pas admis que le projet de constitution préparé par le gouvernement Ben Bella ait été approuvé par les 4000 cadres du FLN réunis dans un cinéma d'Alger avant de leur être présenté.
Et M. Ferrat Abbas s'est fâché tout rouge, il a pris la tête des mécontents.
La constitution d'un pays est une chose trop importante pour aller la prostituer dans un cinéma, a-t-il dit. Le parti n'a pas le droit d'élaborer la constitution et d'abord, pour moi, Ferrat Abbas, le parti n'existe pas. Ce sont les premières critiques que le président de l'Assemblée algérienne prononce depuis la collade de Sétif qu'il avait réconcilié, semble-t-il, le mois dernier avec M. Ben Bella.
Cet incident, donc, a eu lieu hier au cours d'un débat budgétaire et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce débat était animé.
Les mesures d'austérité d'un budget qui comporte 770 millions de francs nouveaux de déficit en 6 mois ont été cependant adoptées par les députés algériens. Certaines majorations sont de 20%, d'autres atteignent 100%. C'est le cas, par exemple, de la taxe sur la circulation des voitures.
Oui, je crois qu'il y aura maintenant 2 vignettes automobiles en Algérie. M. Ben Bella n'assistait pas au débat, il arrivait au même moment à Bamako en tant que haut officiel du Mali. Et M. Ben Bella a rappelé devant le président Modibo Keïta et devant notre correspondant les objectifs et la vocation africaine de l'Algérie.
Nous avons des propositions concrètes à faire, d'abord pour en faveur des mouvements de libération nationale en faveur de l'aide que nous devrions leur apporter, de l'action plus concrète, plus décisive que nous devrions leur apporter. Ensuite, de l'action diplomatique, c'est pas politique, que nous devrions mener lors de la prochaine session de l'ONU.
Malgré les tensions, malgré les oppositions qu'elles suscitent, la constitution de type présidentiel est adoptée. Il s'agit maintenant d'élire le président de la République. Ahmed Ben Bella est le seul en course.
Dimanche prochain, M. Ben Bella sera élu président de la République algérienne. Avant-hier, les Algériens ont approuvé la constitution du nouvel État et en fait voté déjà pour M. Ben Bella. Aujourd'hui, l'état-major du FLN, les cadres du parti, ont désigné leur candidat à la présidence. Pas de surprise, c'est M. Ben Bella. Et nous allons écouter, recueillis par Joseph Baltou, les propos du colonel Boumediene qui traduisent cette décision.
Considérant que le frère Ahmed Ben Bella par son action dans la révolution et au cours de la première année d'indépendance est le militant le plus à même de mener le pays dans la voie du succès. Considérant que sa candidature constitue un acte d'unité nationale. Décide de présenter au suffrage du peuple algérien la candidature du militant Ahmed Ben Bella comme président de la République algérienne démocratique et populaire.
Le président Ben Bella a alors pris la parole, s'exprimant parfois en français, comme pour aller jusqu'au bout de sa pensée, affirmant que le peuple algérien n'accepterait jamais une dictature, que l'Algérie verrait ses structures complètement bouleversées, rencontrerait beaucoup de difficultés à l'extérieur. Quant à ses propres erreurs que dénoncent les opposants,
il y a un cadre pour les régler, c'est le FLN.
C'est sans surprise que Ahmed Ben Bella va être élu le 15 septembre 1963 président de la République algérienne. C'est le sacre. Il s'est débarrassé de tous ses adversaires politiques et pense pouvoir mettre en œuvre sa politique socialiste algérienne, notamment la redistribution des terres des pieds noirs aux paysans et les nationalisations. Mais il n'a pas forcément pris en compte les ambitions de certains proches qui l'ont installé par la force dans ce prestigieux mais fragile fauteuil. Le président de la jeune République algérienne aura-t-il le temps de mettre en œuvre ses idées? Rendez-vous la semaine prochaine dans la dernière partie de cette série d'Archives d'Afrique consacrée à Ahmed Ben Bella. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous pour la suite et la fin de la série d'Archives d'Afrique spéciale Ahmed Ben Bella la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.
سواح وماشي في البلاد سواح والخطوة بيني وبين حبيبي براح مشوار بعيد وانا فيه غريب واللي قرب والنهار رواح سواح وماشي في البلاد سواح والخطوة بيني وبين حبيبي براح مشوار بعيد وانا فيه غريب واللي يقرب والنهار روح ونلاقاكم حبيبي سلمولي علي سلمولي علي طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه طمنوني الأسمراني عاملة إيه الغربة فيه